Bien, la saison de hockey est à peine terminée que, bon, on a rendu public le nombre de commotions cérébrales qui ont été notées durant cette courte saison de 56 matchs cette année. Là, c'était beaucoup plus court que les autres années. Et la Ligue nationale rapporte 81 commotions cérébrales cette année. C'est beaucoup. On a tous en tête, notamment la commotion cérébrale qu'a subi Jake Evans, mais surtout John Tavares contre le Canadien en début de série, où vraiment ça avait été extrêmement troublant de voir Tavares complètement dans les vapes, dans les pommes. C'était même très, très, très inquiétant. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce nombre élevé de commotions cérébrales? J'ai l'impression qu'on essaie toujours d'essayer de les contrer, mais il y en a de plus en plus. Le docteur Dave Ellenberg est neuropsychologue. Il est spécialiste des commotions cérébrales et professeur à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Ellenberg.
Oui, bonjour.
Alors, quand vous voyez 81 commotions cérébrales dans une saison qui a été raccourcie, là, qu'est-ce que ça vous inspire comme bilan?
Ouais, c'est un chiffre qui est important. C'est quoi? C'est environ 10 % des athlètes. Et puis, quand on regarde les statistiques, on nous dit aussi qu'on n'inclut pas les commotions cérébrales qui surviennent à la suite de bagarres.
Ouais.
Et il faut également savoir qu'une étude canadienne assez récente qui nous dit que plus d'un joueur sur deux ne rapporte pas les symptômes de leur commotion cérébrale. Donc, il est même possible que ce chiffre-là soit sous-estimé, sous-estime le réel taux. Donc, c'est beaucoup. Et c'est, pour moi, c'est d'autant plus inquiétant quand on sait, selon ces chiffres, que une commotion sur deux qui est survenue là, dans ces 81 commotions, est survenue à la suite d'un geste illégal.
Oui, et qui plus est, il y a seulement 15 de ces contacts-là qui ont été punis. Non seulement il y a un geste illégal, mais les arbitres ne les punissent pas. Alors, c'est quand même assez inquiétant, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ça? D'abord, est-ce que les équipements sont en cause ou c'est vraiment la nature du jeu qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de commotions cérébrales?
Je crois qu'il y a une volonté. C'est pas l'équipement. On sait aujourd'hui, c'est pas l'équipement dans la mesure où on sait qu'une commotion cérébrale, on peut pas la prévenir avec un casque. Le casque est important. Le casque prévient de blessures plus graves, mais le casque ne permet pas là, de diminuer le risque de commotion cérébrale parce que l'accident se passe à l'intérieur de la boîte crânienne et il est causé par un mouvement rapide de la tête. Donc, un choc au haut du corps, à l'épaule, au visage, à la tête, qui envoie la tête donc en mouvement de balancier, puis qui fait en sorte, dans le fond, que le cerveau va aller se heurter, va aller percuter des parois de la boîte crânienne, causera une commotion cérébrale. Donc, c'est la nature du jeu. En même temps, vous savez, puis les accidents, ça arrive dans tous les sports. Quand on parle d'un réel accident, c'est-à-dire qu'on a mis en place les mesures de sécurité, on peut accepter un certain risque. Toutefois, lorsqu'on sait que certaines caractéristiques du jeu causent des commotions cérébrales ou augmentent le risque de commotions cérébrales au-delà d'un simple accident, c'est ça qu'on devrait cibler, comme par exemple les gestes illégaux.
OK. On dit qu'il y a une sur deux est rapportée. Est-ce que, parce qu'on l'avait vu dans le football, là, je me souviens de il y avait eu une espèce de scandale dans la Ligue nationale de football américaine, entre autres choses, là où on avait pendant des années nié le phénomène des commotions cérébrales, alors que les preuves scientifiques existaient bel et bien. Est-ce que c'est la même chose dans la Ligue nationale, même si on a des protocoles maintenant qui sont établis, tout ça, est-ce qu'on continue à minimiser l'importance des commotions cérébrales?
Je crois qu'on continue absolument à minimiser les conséquences dans la mesure où on ne met pas en place les mesures qu'il faut pour diminuer le risque le plus possible. Si on comprenait les conséquences à long terme des commotions cérébrales, on ferait les choses bien différemment. On peut penser à Nusha qui a probablement mis fin à sa carrière hâtivement à cause des commotions cérébrales, quelqu'un qui aurait pu continuer à jouer encore quelques années. Et puis, il n'est pas le seul. D'autres athlètes aussi en parlent. Je pense que c'est le cas de Simon Gagné qui en parle dans un livre qu'on vient de publier avec Diane Sauvé et des collègues qui auraient possiblement plus continuer sa carrière encore quelques années.
Ouais. Je voyais, bon, je citais Jake Evans, là, qui a été frappé durement durant les séries éliminatoires, puis qui a été sous le protocole des commotions cérébrales. Pourtant, il est revenu une dizaine de jours plus tard au jeu. Est-ce que on les ramène trop rapidement? Est-ce que les protocoles de retour au jeu sont sérieux dans la Ligue nationale de hockey?
Absolument, je trouve qu'on les ramène beaucoup trop rapidement. Il y a des études, mais bon, ce qu'on sait maintenant, ou les protocoles, la façon qu'ils fonctionnent généralement, c'est quand l'athlète rapporte et dit qu'il n'a plus de symptômes, qu'il se sent bien, il retourne au jeu, il peut passer quelques tests, et on vient de publier une étude là cette année qui indique que ces protocoles-là, les protocoles standards, ne sont pas assez sensibles, que selon ce protocole, un athlète sur quatre ne devrait pas retourner au jeu parce que nous, on a rajouté au protocole des conditions qui sont beaucoup plus exigeantes sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Et lorsqu'on évalue les athlètes sous ces conditions-là, on voit que les symptômes ressortent et les déficits ressortent. Ouais. Donc, en effet, le protocole actuel, cette étude a démontré là qu'il n'est définitivement pas assez sensible.
Bon, évidemment, ça fait partie du sport. Là. C'est un sport de contact, le hockey. Il faut s'attendre à ce que il y ait des événements comme ceux-là. Dans tous les sports, ça arrive. Pour essayer de les minimiser, est-ce que la Ligue nationale ne devrait pas faire en sorte, parce qu'on l'a vu là, pendant les séries éliminatoires, les arbitres rangent leurs sifflets, il n'y a plus de punition qui se donne ou à peu près plus, puis le niveau de jeu est évidemment très, très, très intense et ça peut amener justement plus de risques pour les athlètes. Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on ne devrait pas être plus sévère pour respecter les règles qui pourraient justement prévenir des gestes comme ceux-là?
Et je présume que c'est une question de volonté. J'ai participé à une émission sur cette chaîne, sur votre chaîne, et il y avait Jérémy Piloza qui indiquait que les matchs qui suivent, là, les impacts ou les commotions cérébrales comme celle de Jake Evans, actuellement, sont encore plus regardées. Donc, est-ce qu'il y a un incitatif là, de laisser ce type d'accident-là se poursuivre? Peut-être, je crois qu'il faut faire les choses différemment, mais vous savez, ce qui m'étonne, et peut-être qu'on ne devrait pas être étonné. Si on revient au tout début et on a dit que une commotion sur deux est causée par un geste illégal cette année, cette dernière saison, dans la Ligue nationale d'hockey, c'est exactement les mêmes chiffres d'une étude qui a été publiée à la fin des années 90.
Ah oui, ça change pas, donc.
Une commotion cérébrale sur deux au hockey est causée par un geste illégal. Donc, je vois pas de changement important. Là, ça fait à peu près 20 ans, là. Depuis cette étude, et on en connaît beaucoup plus aujourd'hui. On connaît les conséquences à moyen, à long terme, et je vois pas le changement.
Ouais.
Et c'est dommage parce que, vous savez, non seulement ça affecte la vie de ces athlètes, mais surtout, je pense que ça a une influence importante sur les jeunes, les amateurs qui regardent leurs idoles et qui, pour eux aussi, peuvent minimiser les conséquences des commotions cérébrales sur eux. Faut pas oublier que ces athlètes, mais aussi ont une grande influence sur les jeunes qui les regardent.
Mais c'est là justement où je voulais aller en terminant, c'est que évidemment on parle beaucoup du sport professionnel puis du hockey professionnel où il y a des médecins là qui sont sur le bord de la bande là à chaque partie puis qui peuvent évaluer rapidement les joueurs, mais c'est pas le cas dans le sport amateur et souvent le sport amateur de haut niveau. Il y a des contacts sévères aussi. Ça peut représenter aussi un risque pour les jeunes, non?
Tout à fait. Bon, les plus hauts niveaux, les 3A, mais dites 3A pour la plupart au hockey, au football, il y a des soignants sur la glace, sur le terrain, comme des thérapeutes du sport ou des physiothérapeutes, une chance. Mais par contre, la grande majorité des jeunes qui jouent chaque fin de semaine n'ont pas de soigneurs, d'experts, de cliniciens, et on sait qu'il y a un nombre important de commotions cérébrales chaque fin de semaine qui se passe à travers le hockey, le football, le soccer. On sait que la plupart de nos sports sont pas à l'épreuve. Comme on a dit précédemment, un certain taux de commotion cérébrale est acceptable si on met tout en place et surtout si on prend en charge les athlètes. On sait que si une commotion cérébrale elle est bien prise en charge, que l'athlète est retiré du jeu, qu'on fait un retour progressif au sport, à l'école, et qui retourne seulement lorsqu'il est prêt. Des fois, c'est peut-être 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines après la blessure. Il y a peu de risques à long terme. Mais c'est lorsqu'un athlète retourne au jeu beaucoup trop rapidement et qu'il accumule des commotions cérébrales, 2, 3, 4, c'est là qu'il peut y avoir des conséquences à long terme.
Donc, il faudra peut-être surveiller davantage nos jeunes aussi, hein, les parents, être vigilants, bien sûr, de ce qui peut arriver quand les jeunes se font frapper. Merci beaucoup, Dr. Ellenberg, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir. Le Dr. Dave Ellenberg est neuropsychologue. Il est spécialiste des commotions cérébrales.